France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebien.
Un jour dans le monde, un jour en Syrie ce soir.
The dictator is gone. This is the freedom for Syria. We pay a huge price for that.
C'était le 8 décembre dernier, Bachar el-Assad, contre toute attente, fuyait son pays. Les forces du mouvement islamiste HTC avaient réussi à prendre le pouvoir en 11 jours à peine en Syrie, dans ce pays meurtri par 54 ans de dictature et de tyrannie et 14 ans de guerre civile. Un pays en ruine aux multiples communautés et encore menacé par le terrorisme. Tout est à reconstruire. Un État, une communauté, sans compter une économie exsangue dans un pays qui fait l'objet de multiples sanctions internationales. C'est un militant infatigable des droits de l'homme que nous recevons ce soir, avocat, président du Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression, un homme surtout en exil depuis 10 ans et qui vient de retourner pour la première fois dans son pays. Bonsoir Mazen Darwish.
Good evening.
Bonsoir.
Vous venez de passer 3 semaines en Syrie, vous avez traversé votre pays. Quelle a été votre sensation, votre émotion la plus forte?
C'était la première fois que moi j'avais un pays, que j'étais un citoyen. Et oui, beaucoup d'émotions dans cette situation de marcher sans la peur, de traverser les frontières sans avoir l'impression que quelque chose de moche va se passer. Et puis, en même temps, la ville, le pays est épuisé. Ça fait 14 ans de guerre et cette guerre a infligé des choses terribles. Les gens ont de l'énergie, de l'adrénaline, mais il y a tellement de choses à faire.
Donc le pays que vous avez quitté, évidemment, n'est pas celui que vous avez retrouvé. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, j'ai envie de dire visuellement déjà, le niveau de destruction?
Oui, c'est une des choses les plus importantes. Si on sort de Damas, de 7 km, vous trouverez des endroits complètement détruits. Al-Kaboun, il y avait la vie, il y avait des écoles, des routes, des mosquées, et tout est détruit. C'est un grand choc. Et moi, je le savais par les médias, par la télé. Mais quand on marche dans cette destruction, c'est complètement différent.
Le chaos va au-delà de ce que on en a montré, de ce qu'on en a dit. Est-ce que le chaos aussi, il est encore à l'intérieur des Syriens, ou est-ce que c'est seulement la libération maintenant qui compte?
Oui, comme je le disais, dès que je passais le checkpoint à la frontière, j'ai senti quelque chose de neuf, de nouveau. Quand la personne m'a regardé, m'a contrôlé, il m'a regardé et m'a dit « Mais oh mon Dieu, mais comme on vous attendait !» Il y a quelque chose de nouveau dans l'air. On n'avait jamais vécu ça, ça fait 50 ans. Quand vous marchez dans la rue, et même s'il y a des militaires, mais je ne ressens pas ce souci, cette angoisse permanente. J'avais envie d'embrasser tous les gens dans la rue. J'étais tout ému. Et j'ai dit à mes amis, oh là, peut-être qu'il faut que je me calme. J'étais vraiment plein d'émotions.
Bon, c'est quand même un pays détruit. On l'a dit, un pays affamé. Il y a 90% des Syriens qui ont besoin d'aide humanitaire, d'après les Nations Unies. C'est un pays qui est divisé encore, qui est à peine libéré de ce demi-siècle de dictature particulièrement barbare. Alors, on l'entend, l'espoir, on l'entend dans ce que vous dites, mais est-ce qu'il y a aussi une crainte de l'avenir ?
Yeah, totally. It's
mais oui,
a destroyed country, as,
un pays
as
détruit,
you said, but
comme
yes,
vous le dites,
there is a hope.
Mais il y a de l'espoir.
Can make a change. And now they
ils
own
savent
their country.
Qu'ils peuvent
they
changer
their,
ce pays qui est le leur.
Mazen Darwish, le nouvel homme fort du pays, c'est Ahmed al-Shara, président intérimaire à la tête de la coalition de groupes armés islamistes qui ont renversé Bachar el-Assad il y a 2 mois. Lui cultive soigneusement son image. Il n'apparaît plus en uniforme kaki, sa barbe s'est raccourcie. Il construit son récit sur les réseaux sociaux. Lui, ex-chef du mouvement islamiste HTC, la communauté internationale est circonspecte, mais se dit prête à avancer avec lui. Et vous, qu'en pensez-vous ?
Tout à fait, on connaît son passé, son histoire. C'est un ancien général. Mais depuis 2017, ils ont quand même changé. Et ça se voit vraiment sur le terrain. On ne va pas du tout leur donner un chèque en blanc. Mais il faut qu'on garde la leçon du régime d'Assad. La droite, la gauche, même les islamistes, on ne leur donne à personne un chèque en blanc. Il nous faut une institution, un système, pour que ce soit équilibré. Il ne s'agit pas de croire ou pas croire les individus. Il s'agit de retenir la leçon. Parce qu'on l'a apprise à nos dépens. Des centaines de milliers de gens tués. Des centaines de personnes toujours manquantes, disparues. Il ne faudra pas refaire la même erreur.
Alors il promet un nouveau gouvernement pour le 1er mars qui, je cite, représentera autant que possible le peuple syrien. Qu'est-ce que ça signifie, autant que possible ?
Sincèrement, ça ne va pas être facile. Dans les 3 années à venir, de résoudre tous les problèmes d'une façon respectable, avec aussi un état de droit. En ce moment, quand ils parlent de ce gouvernement, je pense que c'est plutôt un gouvernement technocrate. On ne veut pas d'un gouvernement qui reflète une religion, une communauté ethnique. Il ne s'agit pas de mettre un sunnite, un chrétien, etc. Non, on ne veut pas revenir là-dedans, dans les mêmes jeux du régime d'Al-Assad. On veut des technocrates dans le gouvernement, des gens qui peuvent gouverner, peuvent tenir le pouvoir avec de l'expérience, qui ont de la connaissance et qui puissent construire, reconstruire le pays.
Alors, de quoi effectivement rassurer la communauté internationale aussi. À Paris, la semaine dernière, s'est tenue la 3e conférence internationale depuis la chute de Bachar el-Assad. La France soutient cette phase de transition, à condition de ne rien sacrifier à la lutte contre le terrorisme et aussi à condition que l'inclusivité soit réelle. Cette aide internationale et la levée des sanctions, c'est indispensable. Vous aviez commencé à l'évoquer au début de cette interview, vraiment indispensable pour le redressement du pays, c'est la première chose à faire.
We are very thankful for France.
Nous remercions vraiment la France qui nous a soutenus depuis longtemps sur le côté de la justice. Il y a un intérêt commun contre l'extrémisme. Il y a vraiment des choses que nous partageons.
C'est-à-dire, tout le monde veut en finir avec l'extrémisme en Syrie aujourd'hui ?
Ah oui, tous les Syriens ont ce but. Et jamais on n'arrivera à une paix durable en Syrie ou dans la région si nous ne combattons pas et si nous ne remportons pas la bataille contre l'extrémisme en général. Les sanctions, c'est quelque chose de c'est un outil extrêmement doux. On a compris que c'était nécessaire contre le régime précédent. Mais pour se battre contre l'extrémisme, il nous faut des moyens. On ne peut pas faire ça dans un pays pauvre parce qu'ils tombent trop facilement dans la violence et dans l'extrémisme. Si l'économie ne suit pas, si elle n'est pas relancée, il nous faut des salaires. Il faut que les gens gagnent leur servi pour que nous puissions vraiment nous battre contre l'extrémisme. Alors, ces sanctions économiques, c'est vraiment l'outil le plus important pour la paix et pour se battre contre les ennemis de la Syrie.
Mais redresser l'économie, ça va prendre du temps.
Yes, it will take time,
but et oui, ça prendra du temps, mais il faut bien commencer.
Oui.
On ne va pas attendre à que tous les problèmes soient résolus. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Il nous faut nous mettre au travail. Il faut de l'espace, il faut qu'on arrête les sanctions pour notre pays et notre économie. Et bien sûr, il nous faut du temps, il nous faudra du temps. Voilà, c'est pas du tout comme on appuie sur un bouton et puis tout est résolu. Il faut d'abord arrêter les sanctions.
Alors, autre question fondamentale, Mazen Darwish, comment purger les horreurs du passé? Que faire des exactions institutionnalisées par le régime de Bachar el-Assad, dont vous avez vous-même été victime, puisque vous avez passé plus de 3 ans en prison?
Non, on ne peut pas dire, il faut être réaliste. On ne peut pas dire c'est disparu, ça n'existe plus, parce que ce n'est pas comme ça qu'on aura la paix. Il nous faut faire face à ce qui s'est passé. Et il nous faut la justice, maintenant.
Comment ?
Il nous faut de la reconnaissance des crimes. Et nous voulons comprendre pourquoi c'est possible. Pour ne pas y retourner, il nous faut absolument juger les gens, les principaux criminels des partis anciens, mais spécialement ceux qui, dans le régime, étaient responsables de 90% de ces crimes. Il faut absolument les traîner en justice. Sinon, il va y avoir la revanche et la vengeance. Il nous faut protéger notre société de ça. Il nous faut de la justice. Et puis ces victimes, ce n'est pas seulement ceux qui ont été torturés. Il y a plus que ça. Il y a plus de 2 millions de gens en Syrie qui ont perdu leur maison. La ville dont je vous parlais est complètement détruite. Il nous faut de la justice et il nous faut comprendre qu'il y a vraiment 27 parmi les plus pourcents de handicapés en Syrie.
Vous faites partie d'une plateforme, Mazen Darwish, baptisée Madaniya, ce qui signifie « civique » et qui vise à faire entendre la voix de la société civile. C'est la société civile, aujourd'hui, qui doit reprendre la parole et reprendre le pouvoir, quelque part.
Je suis complètement d'accord. C'est sans doute peut-être ce qui s'est passé la plus important depuis 14 ans. C'est que nous avons une société civile forte. Et partout. Aux quatre coins du pays. Et cette société donne un exemple concret d'un travail remarquable, et même aussi des Syriens ailleurs. Sur tous les sujets, nous avons besoin d'avoir une société civile très forte pour ne pas retourner dans la tyrannie. Une société pour s'assurer que nous avons un espace politique pour avancer dans le sens des valeurs qui sont les nôtres. C'est la clé, vraiment, à une collaboration avec la France, la Syrie, ce qui est vraiment essentiel.
Donc en fait, si je résume, il faut qu'Ahmed al-Sharaa réussisse, sinon c'est le chaos.
Moi, je fais partie de ceux qui ne fait pas partie de l'idéologie et je ne fais pas partie de ces partis. Je fais de mon mieux pour qu'il y ait une transition politique qui ait du succès, que ce soit lui ou un autre à l'avenir. Pour être clair, il y a énormément de gens, de militaires que nous ne pouvons pas contrôler. Et Ahmad Sharaa, lui, le peut. Les politiciens, la société civile ne le peut pas. Si nous ne construisons pas une institution, un cadre, si nous n'avons pas des élections, un parlement, une juridiction, jamais nous n'arriverons à avoir un avenir politique. Et pendant ces 3 ans, il nous faut construire.
Donc tout est à reconstruire et pas seulement physiquement. Hein. Il faut reconstruire des institutions, il faut reconstruire une économie. C'est un pays qui repart de... C'est un peu Syrie année zéro en fait. Hein. 6 millions de Syriens ont quitté leur pays depuis 2011. Beaucoup pensent à rentrer. Et vous, Mazen Darwish?
Moi, je fais partie
de... qui déjà commence. Ça ne va pas être facile de revenir. Surtout pour ceux qui ont des enfants, qui sont scolarisés. Leur maison est détruite là-bas, en Syrie. Donc ça ne va pas être facile et ça ne va pas être rapide. Il y a des millions de ces gens, cependant, qui veulent revenir. Mais les sanctions, encore, c'est la clé. Si on veut que les réfugiés reviennent, il nous faut éliminer ces sanctions pour que le pays fonctionne de nouveau.
Merci, merci infiniment Mazen Darwish d'être passé par France Inter. Je rappelle que vous êtes le président du Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression. Et merci aussi à Harold Manning d'avoir assuré la traduction.
Je vous remercie.
La suite ce soir se passe au Maroc avec le reportage d'Un jour dans le monde. Les migrants venus d'Afrique de l'Ouest travaillent au péril de leur santé sur la production de fruits et légumes. Et pour aller jusqu'à 19h, les intervenants de ce mardi, Kevin Dufraîche sous les radars.
En République tchèque, des castors très précieux.
Bonsoir Dominique André.
Bonsoir.
Dans le monde à 18h50.
La Chine cherche à avoir un rôle constructif dans le règlement du conflit ukrainien.
Et Caroline Gillet au pays des 27, bonsoir.
Bonsoir. À quoi servent les think tanks à Bruxelles et peuvent-ils apporter la paix dans le monde?
Réponse tout à l'heure. Pour l'instant, on fait une escale en France. The Liminianas annonce son retour avec ce titre accompagné de Bobby Gillespie, le mythique chanteur de Primal Scream, Prisoner of Beauty sur Inter. Au Maroc pour le reportage d'Un jour dans le monde. En 2022, ce pays est devenu le premier fournisseur de l'Union européenne en fruits et légumes. Les agriculteurs européens, eux, protestent, dénonçant régulièrement une concurrence déloyale en raison du très faible coût de la main-d'œuvre locale qui compte notamment un nombre très significatif de migrants subsahariens. Nous partons donc du côté d'Agadir, principale région de production de fruits et légumes. Au moins 10 000 migrants en situation irrégulière venus d'Afrique de l'Ouest travaillent dur dur pour amasser un petit pécule, certains dans l'optique de pouvoir continuer leur parcours migratoire, d'autres avec la ferme intention de rentrer dans leur pays natal. La suite, c'est notre correspondant au Maroc, François Umfer Katadji, qui la raconte.
Nous sommes à une vingtaine de kilomètres du centre d'Agadir, dans l'un de ces grands faubourgs sortis de terre tout récemment. Dans un petit appartement d'un immeuble de 3 étages, 2 pièces d'environ 10 mètres carrés, vivent Elisabeth, ivoirienne, et Honoré, son époux guinéen. La marmite boue au pied d'un petit sofa. Honoré travaille dans les champs de framboises et Elisabeth dans les usines de conditionnement.
La tomate, le poivron, le piment, les haricots, tout ce qui est fruits et légumes.
Pour les travaux qu'on fait au champ, c'est difficile, mais on n'a pas le choix.
Tous deux travaillent 9 heures par jour pour 8 euros la journée dans des conditions difficiles.
Les produits qu'on utilise pour la production des légumes sont très très toxiques. Moi, j'ai saigné du nez pendant 6 mois. Même avec le cache-nez, je porte le cache-nez chaque jour, mais je saigne toujours du nez jusqu'à ce que la saison prenne fin. Et ça a tout jeté comme ça.
On a problème de santé beaucoup, beaucoup. Ici, majorité, nous les Noirs, on n'a qu'une seule maladie, c'est la fatigue. Même moi là où je suis comme ça, là, des fois la nuit, je sens les douleurs ici. Mais le matin, je dois sortir parce que je ne peux pas rester ici, bras croisés. Il faut que je me lève.
Et déjà, regarde, à mon âge, j'ai des doigts d'une personne de 60 ans. Toujours froissé. Tu ne peux pas avoir de jolis ongles. Les produits, ça détruit nos doigts. Ça agit, ça affecte notre santé.
Un bac scientifique en poche, la jeune femme est arrivée légalement au Maroc avec l'espoir de se former pour devenir sage-femme. Elisabeth s'est retrouvée en situation irrégulière et sans moyens pour payer sa formation de 900 euros par an, explique-t-elle en tressant les cheveux de son amie malienne.
Déjà, c'est difficile pour un migrant de travailler et payer ses études. C'est très difficile. Tu vas aller demander une formation, on va te dire peut-être 9000 dirhams par an. Et si tu dois payer ta maison, les factures, envoyer un peu d'argent aux parents parce que nous sommes l'espoir de nos familles quand on sort du pays. Parce qu'on laisse d'abord une famille modeste qui peut-être même n'arrive même pas à couvrir les fins du mois. Et tu regardes la situation de ta famille, tu dis bon, je vais sortir puisque je suis l'aînée. Je viens me chercher, m'occuper de mes frères et sœurs.
L'ivoirienne envoie 25% de ses revenus au pays pour aider la famille. Elle n'envisage pas son avenir au Maroc. Au bout du compte, elle ne gagne pas plus ici qu'en Côte d'Ivoire. Elle souhaite, dès que possible, poursuivre son parcours migratoire.
Je ne peux pas continuer parce que je n'ai pas les moyens. Vous voyez, l'intention, c'était de rester ici, m'intégrer ici. Parce qu'il y a beaucoup de Marocains qui s'intègrent facilement chez moi. Mais la différence est que je ne peux pas. Donc, si j'ai l'opportunité de traverser pour aller en Europe, bien je sais.
Tenir, amasser un petit pécule et partir, tels sont les objectifs du couple. Mais contrairement à Elisabeth, Honoré, après avoir traversé 4 pays et vécu un parcours tortueux et difficile, souhaite repartir en Guinée dès que possible.
Parce qu'au début, j'avais une idée franchement pour traverser la mer. Mais j'ai tenté plusieurs fois et ça n'a pas marché. Et maintenant, j'ai une autre idée encore presque, c'est de chercher de l'argent et de me retourner dans mon pays, aller faire mes petits courses avec ma femme. Parce qu'arriver à un certain moment, il faut essayer de reculer. Faire ma arrière, ça ne veut pas dire que tu as peur, c'est pour aller se préparer et être encore plus fort.
Accès au logement, à la scolarité ou aux soins de santé, des associations ont commencé à émerger pour venir en aide à ces populations vulnérables. Emmanuel Niyo Kwizigira, originaire du Burundi, au Maroc depuis 12 ans, travaille comme bénévole au comité d'entraide internationale d'Agadir. Il estime qu'environ 10 000 migrants subsahariens sont établis dans la région d'Agadir.
Depuis 2017, il y a eu beaucoup d'arrivées ici liées à des déplacements forcés, souvent depuis le nord vers le sud, et notamment vers Agadir et les environs. Du coup, les fermes deviennent encore une source de revenus. Quand ils perdent de l'argent en tentant de traverser, ils reviennent, ils travaillent 2 ans, 3 ans et puis ils tentent encore.
L'humanitaire confirme les nombreux problèmes de santé auxquels sont exposés ces travailleurs migrants. La majorité des médicaments que nous donnons concernent des problèmes de peau ou des problèmes respiratoires, dit-il.
François Umfer Katadji, Agadir, pour le reportage. Merci. L'actualité passée sous les radars, mais qui ne vous a pas échappé, Kevin Dufraîche. Nous sommes d'abord aux États-Unis où il y a le feu à la mairie de New York.
Oui, hier, le conseil municipal, par la voix de sa porte-parole, a demandé la démission du maire démocrate, Eric Adams, désormais quasiment seul contre tous.
4 de ses adjoints ont démissionné. Tempête politique d'abord parce que depuis fin septembre, Eric Adams est inculpé dans une enquête pour corruption. Ensuite parce qu'il est accusé par sa famille politique de rapprochement avec Donald Trump, dont l'administration essaye de faire classer l'affaire qu'il concerne. Et la semaine dernière, le maire démocrate s'est dit prêt à collaborer avec le président sur l'immigration et les expulsions massives à rebours des grandes villes démocrates qui organisent une forme de résistance face à Trump. Hier, Eric Adams a été interrogé sur les démissions de ses adjoints.
When I was indicted, y'all remember what happened? People departed.
Quand j'ai été inculpé, déjà des élus sont partis et des gens ont dit que c'était la fin de mon administration, répond-il comme toujours avec une certaine désinvolture. Il refuse formellement de démissionner, mais la gouverneure de l'État de New York, Katie Hochul, qui a le pouvoir de destituer le maire, a déclaré hier qu'elle ne l'excluait pas, une procédure jamais utilisée depuis la création de l'État.
Voici en Afrique du Sud où un imam a été assassiné.
Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Muhsin Hendricks, le premier imam au monde à avoir publiquement dévoilé son homosexualité. Samedi à Guebera, dans le sud du pays, il a été abattu de plusieurs balles en plein jour, une véritable embuscade alors qu'il circulait en voiture. Le tireur s'est ensuite enfui. Un complice au volant d'une voiture, Muhsin Hendricks, avait 58 ans. Les suspects sont toujours en fuite. Le meurtre n'a pas été revendiqué et la police, pour le moment, ne parle pas de crime homophobe. Mais l'imam a plusieurs fois fait part de ses inquiétude pour sa sécurité ces dernières années. Il recevait des menaces de mort, surtout en ligne, depuis son coming out il y a bientôt 30 ans. Il a fondé au Cap une mosquée pour offrir, disait-il, un espace sûr dans lequel les musulmans homosexuels peuvent pratiquer l'islam.
Enfin, nous sommes en République tchèque où des castors font des miracles.
Oui, ça se passe dans les monts de Brdy, une soixantaine de kilomètres au sud de Prague, sur un ancien site militaire. Il y a 15 ans, les États-Unis ont voulu y installer un système radar de défense. Le projet a été abandonné, mais les travaux avaient quand même commencé, fragilisant l'écosystème. Depuis 10 ans, le gouvernement tchèque envisage un plan dit de revitalisation, mais ça traîne car ça coûte cher. Et c'est là qu'interviennent nos castors. Fin janvier, l'Agence de protection de la nature et des paysages a publié des images montrant qu'une famille, une équipe d'une dizaine de castors, a construit pendant 2 ans des barrages sur ce site. Et ça a créé naturellement une zone humide qui pourrait permettre de le restaurer. Ils ont en fait détourné l'eau d'un bras de contournement construit par les militaires justement pour assécher l'endroit. Ils ont été plus rapides que l'administration, s'amuse le journal Blesk. Ils ont fait économiser plus d'1 million d'euros à l'État aussi, hein, puisque le plan n'a donc pas existé. Et la presse tchèque se félicite du succès des castors dans le monde entier, jusqu'à un article dans le New York Times et une chronique sur France Inter.
Mazette. Merci Kevin. Et à demain. Direction maintenant la Californie avec cette sublime reprise de California Dreaming de The Mamas and the Papas par le chanteur et guitariste Lee Moses. Bon début de soirée sur Inter.
All the leaves are brown and the sky is green. Yes, I did. On a winter's day, I'll be safe and warm if
Quelle reprise de Limosis, California Dreamin', c'était en 1971.
How dare you?
The world has changed.
Christelle Rebière. Le 18-20.
Le Monde à 18h50, c'est avec vous ce soir, Dominique André. Que pense le régime de Pékin des pourparlers entamés aujourd'hui en Arabie Saoudite entre Américains et Russes sur la guerre en Ukraine ? Officiellement, un porte-parole de la diplomatie chinoise s'est félicité, je cite, « des efforts en faveur de la paix », mais en souhaitant que toutes les parties concernées participent aux négociations en temps voulu. Alors, la Chine ne veut pas être absente de cette séquence diplomatique ?
Tout à fait. On comprend d'ailleurs que Pékin cherche à avoir un rôle diplomatique constructif dans le conflit ukrainien, pour ne pas être un simple spectateur, mais un acteur avec une participation essentielle dans les futures négociations de paix. La Chine a toujours défendu une position de neutralité dans ce dossier, mais elle n'a jamais condamné l'agression russe contre l'Ukraine, et elle a été accusée aussi, et à plusieurs reprises, d'avoir soutenu militairement la Russie. En juin dernier, souvenez-vous, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, affirmait que la Chine était le principal soutien de l'effort de guerre de la Russie en partageant des technologies essentielles pour construire des missiles et des armes. Il avait fait planer aussi la menace de sanctions contre Pékin pour lui faire payer le prix de son soutien à la Russie. La Chine souhaite donc apparaître comme une puissance œuvrant pour la paix, une bâtisseuse, et redorer au passage son image.
Et est-ce que la Chine s'inquiète de ce rapprochement entre les Américains et les Russes ?
Certainement, il n'y a pas que les Européens qui s'inquiètent du rapprochement entre Washington et Moscou. La Chine soutient traditionnellement, on le sait bien, la Russie, pays voisin et allié. Alors est-ce que Vladimir Poutine pourrait trahir son ami Xi Jinping ? On n'en sait rien, peut-être. Mais c'est une question en tout cas qu'il est intéressant de se poser dans la fronde anti-occidentale que mène Xi Jinping, qui rêve de ravir le leadership mondial aux États-Unis. Vladimir Poutine est un allié de poids, c'est son ami. Alors est-ce que Xi Jinping accepterait de se rendre à un sommet à trois proposé par Donald Trump avec Vladimir Poutine ? À voir, mais là c'est vraiment trop tôt.
Et donc ça veut dire que Xi Jinping attend de voir, il se méfie de Donald Trump qui depuis son arrivée à la Maison-Blanche veut tout gérer et au plus vite ?
Oui, et la dernière preuve concrète, on la connaît tous, hein, c'est bien Donald Trump qui relance la guerre commerciale contre la Chine, contre Xi Jinping qui est pourtant son ami officiellement. Il a augmenter les taxes douanières sur les produits chinois à l'entrée sur le marché américain. Alors pour le moment, le président chinois n'apparaît pas en première ligne. On le voit d'ailleurs très peu à l'international depuis 2020, c'est-à-dire depuis le Covid. Il est confronté à de nombreux défis internes, il faut le dire. La guerre technologique avec les États-Unis a des répercussions sur l'économie chinoise. Il y a une perte de confiance des investisseurs en Chine. Et puis le chômage. Xi Jinping se concentre aussi sur la situation intérieure de son propre pays.
Merci Dominique André.
France Inter, le 18-20.
Caroline Gillet, cette semaine, rencontre avec Philippe Perchoc. Il est chercheur, il enseigne sur les questions européennes et il est le nouveau directeur de la nouvelle antenne IRSEM Europe, pardon, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire de Paris. Il vous a reçu dans ses bureaux.
Oui, c'est ça, des bureaux à Bruxelles, juste à côté des institutions européennes. Une position stratégique pour ce centre de recherche, ce think tank, lui aussi stratégique. Il va nous expliquer à quoi ça sert pour la France d'être là. Et quand j'arrive chez lui, ce qui me frappe, c'est le mobilier.
Les fauteuils, ouais, ces fauteuils, on dirait des pattes de, ouais, d'animal préhistorique.
C'est vrai. Philippe me présente Naïda, la stagiaire qui travaille avec lui, et c'est l'heure du déj, on file prendre un sandwich.
Vous laissez ces affaires comme ça, il n'y a pas énormément de passage. Vous êtes deux dans ce grand bâtiment ?
Mais l'important, c'est pas combien on est affecté, c'est combien de personnes on fait passer. C'est-à-dire que l'année dernière, on a organisé 38 réunions, on a fait venir 122 intervenants et on a fait venir plus de 1000 personnes. C'est un lieu de passage, quoi.
Ok. Et d'influence. Et de décision secrète.
Alors, de décision, non. encore moins secrète, mais disons, c'est le lieu où on donne à voir la recherche stratégique française ici à Bruxelles.
On a opté pour une salade, mais Philippe admet avoir une passion pour Hector Chicken, une chaîne bruxelloise de poulet rôti. On mange la salade à trois dans la cuisine du centre de recherche et on passe au café.
Ben, quand je suis arrivé ici, la première chose que j'ai achetée, c'est cette machine à café. Parce que c'est très important à Bruxelles de servir du café qui soit quand même bon. Ça améliore votre réputation en tant que centre de recherche si on sait qu'on va y boire du bon café.
L'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, existe depuis 2009. Je lui demande quels étaient les enjeux de créer une branche ici.
Alors, l'autre jour, j'entendais quelqu'un dire à Bruxelles, on n'existe pas si on n'a pas de sonnette. Je crois que le paradoxe de Paris, c'est que c'est trop proche de Bruxelles. Et donc, très souvent, il y a ce sentiment qu'il suffirait de prendre le train pour y aller. Mais puisque c'est du conditionnel, ça ne se fait pas toujours. Et donc, les Allemands, les Britanniques, les Américains, enfin, tous ceux qui sont plus loin, en fait, ont des centres de recherche qui sont aussi présents à Bruxelles parce que ça leur permet de participer au débat, à la conversation et à la décision publique.
Or, depuis 2016, l'IFRI Bruxelles avait fermé, il n'y avait donc plus de grands think tanks français dans la capitale européenne.
C'est aussi nécessaire que les Français soient là pour pouvoir signaler des sujets ou des régions du monde ou des manières de voir qui sont importantes pour les Français. Par exemple, quand on parle de l'Indo-Pacifique, c'est pas pareil quand on est français parce qu'il y a plus d'un million de nos concitoyens qui vivent dans cette région du monde, que quand on est un autre État membre pour qui, en gros, ce qui compte, c'est la liberté de navigation, c'est d'autres types d'éclairage et d'intérêt.
Et l'intérêt, c'est de faire venir qui pour goûter votre café ?
Les chercheurs des autres centres de recherche, les gens de la Commission, les gens du Service européen d'action extérieure, les gens de l'OTAN. Et il se trouve qu'ils participent aussi à un certain nombre de décisions.
On poursuit notre visite des locaux. Il y a une salle de 80-90 personnes au premier étage et une autre où on peut asseoir 25 personnes au deuxième.
Je suis arrivé, il n'y avait pas de meubles.
Et donc, c'est vous qui avez choisi ces fauteuils ?
Celui-ci de fauteuil vient de chez moi, mais tous les autres, c'est moi qui ai choisi. Et je ne m'attendais pas dans ma carrière de chercheur à faire de l'ameublement d'intérieur. Mais voilà, j'imagine qu'il faut être flexible.
Je pose des questions de déco intérieur pour détendre l'atmosphère, mais en réalité, on est ici pour parler de choses graves. Je lui demande si l'Europe de la défense, la question du réarmement des armées européennes, fait partie des questions qui sont abordées ici. Il me dit oui, bien sûr, qu'ils ont organisé plusieurs débats. Il regrette qu'il y ait assez peu d'économistes de la défense qui travaillent sur ces questions. On manque de chiffres, dit-il. Avis peut-être à ceux et celles qui nous écoutent et qui pensent à une reconversion. Je demande à Philippe Perchoc comment il observe ces questions de réarmement européen depuis sa position à lui.
Les optimistes comme moi, ou qui s'intéressent à l'histoire de l'intégration européenne, font le constat qu'on n'a jamais fait autant en si peu de temps. Tout à coup, il y a eu un réveil qui a été un réveil lié à l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et donc, il faut à la fois prendre en compte l'urgence qui est là aujourd'hui et en même temps prendre en compte les spécificités de ce secteur. La défense, ce n'est pas une industrie comme les autres, c'est une industrie qui est aussi très nationale, puisque chaque pays a ses intérêts. Ce n'est pas un marché sur lequel vous pouvez faire circuler des produits d'un endroit à l'autre de l'Europe sans aucune barrière.
Mais alors, qu'est-ce qui a bougé ces 20 derniers mois pour l'Europe de la défense ?
Souvent, en fait, à l'échelle de l'Europe, il y a un besoin, mais il n'y a pas la manière de le faire. Et donc là, on s'est concentré sur la manière de faire, parfois sur des montants qui n'étaient pas vraiment énormes, c'est-à-dire mettre parfois quelques milliards dans l'achat de matériel en commun. Ça peut paraître trop peu, mais l'important, c'est de le faire une fois, même sur un petit montant, parce que si on l'a fait une fois sur un petit montant, ça veut dire qu'on a réglé les questions de comment est-ce qu'on peut le faire juridiquement, avec quel type d'argent, et c'est beaucoup plus facile de gonfler une poche qui est déjà existante. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place tous ces outils qui maintenant, il faut utiliser. Peu importe la présidence américaine, le poumon économique et diplomatique du monde est en train de se déplacer vers l'Asie. Et ça aura de toute façon des conséquences pour les Européens. Donc se défendre tout seul, c'est un signe de maturité.
Merci Caroline Amardi.
Merci.
Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h. Corinne Audouin est près de moi. Ensuite, le téléphone sonne. Bonsoir Manu Ruffel.
Bonsoir.
Rédacteur en chef de l'émission cette semaine. On est en mode carton rouge.
Et oui, la Ligue 1 du football français est au bord de la faillite. Son financement repose en grande partie sur les droits de retransmission des matchs. C'est le diffuseur DAZN qui a été choisi pour ça. Or, DAZN ne veut plus payer. Et on parle d'une ardoise de 35 millions d'euros juste pour ce mois de février. DAZN, la plateforme de streaming, prétexte des problèmes de piratage massif. Le résultat, c'est quand même que tout le modèle économique du football français est en train de prendre l'eau. Alors vous, comment regardez-vous ces matchs ? Est-ce que vous payez ? Est-ce que vous piratez ? Appelez-nous, racontez-nous au 01 45 24 7000.
Et ça commence à 19h20.